Voici le journal de Bernadette Chamonaz.
Bonjour, Donald Trump à Paris, invité d'honneur du 14 juillet. Deux jours pour célébrer les liens franco-américains. Intérêt bien compris des deux côtés, bouffée d'air pour le locataire de la Maison Blanche, lesté par l'affaire de l'ingérence russe, et signal pour Emmanuel Macron d'une France à nouveau au centre du jeu diplomatique. 850 millions en moins pour la défense, la sécurité sacrifiée sur l'autel de l'austérité, l'opposition gronde à l'Assemblée. Reportage. Paris Match qui publie des photos de l'attentat de Nice, images pourtant placées sous scellé, écœurées, les associations de victimes exigent le retrait du numéro. À 8h20, nous vous retrouverons, Marc, en direct de Nice avec vos invités.
Oui, pour la suite de cette matinale spéciale à la veille des commémorations de l'attentat du 14 juillet, comment Nice s'est-elle relevée? Comment les familles ont-elles vécu cette année? Où en est l'enquête également sur le terroriste? Nous serons avec Émilie Petitjean, qui a perdu un fils dans l'attentat et qui dirige aujourd'hui l'association La Promenade des Anges, avec Marion Duvigneau, qui a entrepris un travail de collecte des objets déposés après les attentats, avec Laure de Beaulieu, rédactrice en chef de France Bleu Azur, qui nous accueille ce matin, et puis Michel Boujna, qui lira demain un texte en mémoire des victimes. Vos questions, vos témoignages dès maintenant sur la vie d'après, sur la reconstruction après les attentats. 01 45 24 7000.
Contre les 11 vaccins obligatoires l'an prochain, une pétition est lancée. Premier grand départ, le nouvel objet volant qui vous identifie parfaitement, le drone. Et puis le coup d'envoi hier soir des francophonies.
France Inter.
Air Force One, l'avion présidentiel américain, devrait se poser dans une heure environ sur les pistes de l'aéroport d'Orly. Donald Trump arrive en France pour deux jours, invité d'honneur de ce 14 juillet où l'on commémore le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France en 1917. Deux voyages en Europe en une semaine pour le président américain, mais Donald Trump avait une bonne raison d'accepter cette invitation d'Emmanuel Macron. Sortir de Washington, l'air y est vicié. En ce moment, pour lui, Philippe Randé, il est alourdi par l'affaire qui se rapproche de plus en plus du président, la supposée ingérence russe dans la présidentielle.
Il est resté particulièrement discret ces derniers jours. Certains de ses proches le disent contrarié et en colère après les révélations concernant son fils aîné. À plus de 6000 km de la Maison Blanche, ce séjour en France ressemble donc à un bol d'air frais pour Donald Trump. Benjamin Haddad est chercheur au Hudson Institute à Washington.
C'est une manière de faire diversion. On parle beaucoup de l'affaire de l'ingérence russe. Le président est très controversé. Il a du mal à reprendre le contrôle de la conversation politique. Il a aussi du mal à mettre en œuvre ses promesses de campagne. On ne parle plus du mur au Mexique. On ne parle plus des projets d'infrastructure. Donc, aller faire de la politique étrangère, ça peut être utile.
Selon la Maison Blanche, Donald Trump et Emmanuel Macron parleront aujourd'hui en priorité de sécurité et de défense, ce qui évidemment est loin d'être un hasard. Selon Benjamin Haddad.
Donald Trump et Emmanuel Macron ont beaucoup d'intérêts en commun, notamment la lutte contre le terrorisme. En Europe, la France est un partenaire plus naturel que l'Allemagne. La France intervient au Sahel. Malgré les visions différentes entre Macron et Donald Trump, la coopération entre les deux pays continue.
Emmanuel Macron et Donald Trump qui participeront tous les deux à une conférence de presse après leur rencontre. L'occasion probablement de ramener le président américain à ses tracas quotidiens, car les journalistes venus de Washington risquent fort de lui demander son avis sur les révélations de ces derniers jours. Washington, Philippe Rand, France Inter.
Oui, et lors de cette conférence de presse commune en fin de journée à l'Élysée, on promet un dialogue direct, même sur les sujets qui fâchent, comme le climat. Emmanuel Macron ne désespère pas de faire changer le président américain sur la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Un peu moins d'America First, c'est l'ambition que s'est fixé le président français. Et ce serait une bonne chose qu'il réussisse, estime le vice-président de France-Amérique, Jean-Claude Beaujour, au micro d'Élise Delay.
C'est l'occasion effectivement de rappeler peut-être à Donald Trump que l'Amérique ne peut pas être isolée, qu'elle a une responsabilité internationale, que nous avons des engagements universels et donc il faut le ramener, avec un peu de prétention je dirais, le ramener à la raison. Et de ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit invité, qu'il soit présent.
La visite officielle commence véritablement cet après-midi, 15h30, accueil par le président français aux Invalides. Et ensuite, cette journée se terminera au restaurant gastronomique en haut de la Tour Eiffel, double symbole pour bien montrer à l'Américain que Paris est toujours Paris. Journée diplomatique chargée pour Emmanuel Macron, puisque ce matin, il rencontre aussi la chancelière allemande, Angela Merkel. Et là, autre ambition, lancer avec du concret une vraie coopération européenne de défense. La défense, justement, avec ce coup de gueule du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, après la confirmation par Bercy d'un budget amputé dès cette année de 850 millions d'euros, budget de la défense, en plein état d'urgence, avec une menace terroriste au plus haut, une armée déjà à l'os, les foudres du plus haut gradé de l'armée française et aussi des députés, Aurélien Colli.
La charge est venue des rangs socialistes, la députée du Puy-de-Dôme, Christine Pires-Beaune.
En pleine lutte contre Daesh, le ministère de la Défense devra trouver 850 millions d'économies alors que nos troupes risquent leur vie sur les théâtres d'opérations. Bon courage, Madame la ministre des Armées.
Chahuté par ses anciens collègues de LR qui l'ont suspendu mardi de leur parti, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, réplique du tac au tac.
La vérité, c'est que nous faisons des économies. Nous voulons présenter un budget sincère, alors même que vous avez creusé le déficit et les impôts des Français.
Sauf que de tels coups de hache dans le budget de l'armée, c'est du jamais vu. Jusqu'à présent, il y avait consensus pour sanctuariser la défense. Philippe Gosselin, député LR.
On a plutôt eu ces dernières années une approche assez commune entre la droite et la gauche, de donner un peu plus de moyens à cette défense, d'assurer aussi nos opérations extérieures. Donc nous rappelons la nécessité d'assurer le régalien, d'assurer sa défense, sinon on n'a pas les moyens de nos ambitions.
Nouveau consensus, mais contre le gouvernement, gauche, droite et au-delà même. Pour Marine Le Pen, promesse de campagne et sécurité des Français sacrifiés. Pour Nicolas Dupont-Aignan, Bruxelles impose son pacte budgétaire au pacte sécuritaire français.
Aurélien Colli, pas de redressement fiscal à 1 milliard d'euros pour Google. Le tribunal administratif de Paris a donné raison à Google, qui gagne de l'argent en vendant des espaces publicitaires en France à des annonceurs qui payent en Irlande, à la filiale irlandaise de Google. Une astuce juridique qui n'a rien d'illégal. Alors la solution, eh bien, elle reste pour le sénateur communiste Éric Bocquet, évidemment politique.
Il va quand même falloir que le politique reprenne la main dans la gestion des affaires du monde. Ce n'est pas un groupe, aussi puissant soit-il, qui doit imposer sa loi en matière fiscale. La fiscalité et l'impôt, c'est la loi. Ce sont les États qui le fixent, c'est un barème. Alors toutes les arguties, les finasseries juridiques avec des armées d'avocats hyper compétents font que les États s'inclinent face à ce diktat de Google. C'est tout à fait inacceptable. Le politique doit s'imposer. Mais vous voyez, je pense qu'on est en face d'une problématique aussi importante que celle du réchauffement climatique. Ça va prendre du temps, mais si on ne s'attaque pas à ça, au bout, il n'y a plus d'État et il n'y a plus de défense de l'intérêt général. Il est temps de réagir.
Le sénateur communiste Éric Bocquet, joint par Laurent Kramer à l'Assemblée nationale suite de la discussion sur la loi travail et adoption hier soir de la mesure qui permettra à une multinationale de licencier, même si elle connaît des difficultés économiques en France. Cette mesure avait été retirée de la loi El Khomri. Elle est très décriée par les syndicats. Ils craignent que des groupes organisent artificiellement des déficits en France.
8h08 sur France Inter. La suite du journal de Bernadette Chamonaz. Paris Match publie donc ce matin de nouvelles photos de l'attentat de Nice. Images placées en partie, pour certaines d'entre elles en tout cas, sous scellé.
Oui, des photos inédites issues de la vidéosurveillance de la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016. À la veille donc de la cérémonie en mémoire des victimes, 86 morts, plus de 400 blessés. Eh bien, les familles sont indignées. Elles appellent le parquet antiterroriste à faire retirer les numéros. Benjamin Ely.
Les images viennent des caméras de vidéosurveillance installées sur la promenade des Anglais. Ces caméras qui ont filmé l'horreur le 14 juillet 2016. La course folle du camion, la panique, la foule qui tente de fuir. Toutes ces images que les victimes et proches des victimes ne veulent plus avoir sous les yeux.
Vraiment un écœurement. Paris Match fait ça pour l'argent et ça c'est vraiment dégueulasse.
Stéphane Jiquel, secrétaire général de la FENVAC, la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs.
Donc on voit le camion rouler dans la foule, on voit le corps du terroriste. C'est des photos qui ont été volées dans le dossier judiciaire. Et pour ces personnes, ça va être un choc, ça va être un retour en arrière.
Je trouve ça totalement inadmissible, j'ai même pas de mots.
Cindy Pellegrini a perdu 6 membres de sa famille le soir de l'attentat. Elle refuse de voir ces images.
Est-ce que eux aimeraient voir leur famille à la une des journaux sous des draps blancs? Je ne pense pas. Une fois, sur une recherche internet, je suis tombée sur une image et pour vous dire, elle est toujours là et je travaille encore avec ma psychologue sur le sujet. Donc en rajouter une couche à la veille du 14 juillet, j'ai pas de mots. Je vois pas pas du tout l'intérêt journalistique à faire cela. Ce n'est de rajouter du traumatisme et de la douleur aux gens. J'aimerais qu'il soit condamné fermement pour ça.
Pour l'avocate de Paris Match, les intentions du journal seraient mal comprises. Selon elle, il s'agit de rendre un hommage aux victimes et aux rescapés.
Benjamin Illy, et bien sûr, nous retournerons à Nice à la fin de ce journal avec la matinale de France Inter en direct jusqu'à 9h. Vaccin, le débat est relancé depuis que la ministre de la Santé a annoncé que 11 deviendraient obligatoires dès l'an prochain, au lieu de 3 actuellement. On ne parle que de ça dans les salles d'attente des médecins et ailleurs. Et certains songent d'ailleurs à lancer une pétition. Ils estiment qu'il y a mieux à faire en matière de prévention santé que la posture du père Fouettard. C'est le cas de Michel Rivasi, député Europe Écologie Les Verts, que vous avez rencontré, Sophie Bécherel.
C'est une particularité française. Notre pays est celui où la défiance vis-à-vis des vaccins est la plus forte au monde. Pour 4 Français sur 10, ils ne sont pas sûrs. Selon l'agence Santé publique France, entre 2014 et 2015, la vaccination des nourrissons aurait d'ailleurs chuté de 5%. Pour l'eurodéputé Michel Rivasi, on ne répondra pas efficacement à cette défiance en imposant la vaccination. Cela infantilise les parents, selon elle.
Pour nous, on ne répond pas au problème. Pourquoi il y a cette défiance? Parce que d'abord, il y a eu des scandales sanitaires. Il y a eu l'histoire de la vaccination sur l'hépatite B, qu'on a vite arrêté parce qu'il y avait une augmentation de maladies auto-immunes. Il y a eu le scandale de la grippe H1N1. Et maintenant, une épidémie de conflits d'intérêts sur les experts qui nous disent qu'il faut vacciner nos gamins sur telle et telle maladie. Moi, je ne suis pas pour l'obligation, je suis pour la responsabilisation en ayant une information objective.
Dans la pétition qu'elle lancera d'ici la fin de la semaine, il y aura 7 recommandations, dont le financement de recherches publiques sur les effets secondaires des vaccins, la création d'une expertise indépendante ou encore la mise sur le marché d'un vaccin d'été polio sans aluminium. C'est sur les adjuvants comme l'aluminium que se concentrent beaucoup de critiques et de craintes. Selon les dernières études scientifiques, à cause de nos gènes, nous ne serions pas tous égaux face aux effets secondaires. Sans remettre en cause l'utilité des vaccins, Michel Rivasi préconise une approche individualisée faite par le médecin.
Et les vaccins qui s'ajouteraient donc aux 3 actuellement obligatoires, c'est la coqueluche, ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, l'hépatite B, mais aussi pour contre les bactéries qui peuvent provoquer des méningites. À partir d'aujourd'hui, donc, la France va vivre au rythme des grands départs de l'été et au service de la sécurité sur les routes, un nouvel outil, le drone à 40 mètres de haut, invisible mais efficace. Il surveille, il transmet et il fait déjà polémique. Reportage entre Bordeaux et Bayonne, Laura Lavenne.
Blanc comme les nuages, discret et invisible des automobilistes, ce drone de surveillance voit tout sans être vu. C'est justement ce que lui reproche Pierre-Olivier Cavet, président de la Ligue de défense des conducteurs.
Rien n'empêche les autorités à utiliser les drones pour rentrer dans votre espace privé, c'est-à-dire dans votre véhicule, pour voir si vous allumez une cigarette, pour voir si vous mangez un sandwich. Tout cela, c'est techniquement possible. Et je pense que si nous ne bougeons pas, ça se généralisera, comme c'est le cas aux USA, comme c'est le cas en Belgique.
Mais que les automobilistes se rassurent, le drone ne peut survoler l'autoroute que pendant une heure maximum, faute de batterie suffisante. Son usage reste donc limité et tout à fait légal, explique Rémi Jossaume, avocat en droit routier.
Pour pas rêver, le drone ne va pas verbaliser des téléphones au volant, des défauts de ceinture. Il va verbaliser principalement des circulations sur bande d'arrêt d'urgence, des dépassements par la droite et éventuellement des défauts de clignotant et encore. Mais ça implique nécessairement qu'il y ait une interpellation parce que sinon, tout le travail de verbalisation est voué à l'échec. Parce que vous pouvez parfaitement ne pas être le conducteur du véhicule à ce moment-là. Vous pouvez contester.
Cela ne devrait pas empêcher la surveillance par drone radar de se développer, car ce mouchard volant est très rentable. 10 centimes l'heure de vol contre 4000 euros pour l'hélicoptère.
Et ce jeudi sera rouge dans le sens des départs dans tout le pays. Le Tour de France à la fin du sprint, c'est l'Allemand Kittel qui gagne. Marcel Kittel a déjà remporté près de la moitié des étapes, 5 sur 11. Aujourd'hui, il devrait laisser la victoire à un grimpeur. C'est la grande entrée dans les Pyrénées avec pas moins de 6 ascensions. Et c'est parti pour les francopholies de La Rochelle depuis hier soir. En tout, une centaine de concerts, 6 scènes au programme. Renaud, Biolay, Delerme, Camille, des stars, mais aussi de jeunes talents. Isabelle Pasquier.
Seul dans ma peau. Juliette Armanet qui oubliera très vite sa solitude sur le port de La Rochelle. Car au Francofolie, on peut faire du rattrapage pour voir en 5 jours une grande partie des artistes qui ont signé la BO 2017. Gaël Faye, Camille, Julien Doré, Benjamin Biolay M, Vincent Delerme, Albin de la Simone ou encore Gaëtan Roussel et Rachida Brakni. On pourra même réviser ses classiques avec Renaud et Jonas et Michel Berger. Berger qui est parti depuis 25 ans dans son paradis blanc et que Christophe Willem va revisiter. Mais sur le port de La Rochelle, on adore aussi le vent frais des défricheurs de la planète électro. Petit Biscuit, Superpose, Agar Agar et les nouvelles voix, Barbagallo, Clara Luciani, Julia Paul, même quand ces voix chantent dans la langue de Janis Joplin, comme Fiona Valden, avec sa voix plutôt à la Patti Smith. Elle pourrait bien être d'ailleurs l'une des révélations de ces franco.
Quand j'étais petite, j'écoutais du Janis Joplin, les Doors avec ma maman. Mais j'ai jamais vraiment écouté Patti Smith avant qu'on me compare à elle. Je savais pas que j'avais cette voix en fait. J'avais un groupe qui s'appelait Walden, il fallait que quelqu'un chante. Et j'ai dit bon bah si vous voulez j'essaye. Et j'ai essayé et là il y a un peu tout le monde qui s'est regardé qui a fait « Oula, c'est quoi ce truc ?» On s'attendait pas, moi en fait je savais pas que je chantais comme ça.
Les Francofolies de La Rochelle jusqu'au 16 juillet avec des concerts en direct sur France Inter, deux soirées 15 et 16 juillet, le Mac de l'été d'Anna Sigalevitch à 18h et deux soirées concerts présentées par Didier Varro.